Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Content de vous retrouver pour Culture Média. Au menu, tous les médias, toutes les formes de culture. Aujourd'hui, par exemple, le grand retour d'un manga disparu pendant 10 ans. Vous retrouverez évidemment Marc-Antoine Lebray, les télescopages de Bruno Donnet et dans quelques instants, le journal des médias d'Héloïse Goy avec l'affaire Blanquer à Ibiza, révélée par Mediapart. Pourquoi on en parle? Parce qu'elle est également devenue une question média, car le Parisien a fait l'interview du ministre à distance sans le mentionner à ses lecteurs. En exclusivité, Jean-Michel Salvatore, le directeur du Parisien, nous donne sa version et je peux déjà vous dire qu'il ne regrette rien. Notre infomédia avec ce fait divers qui passionne la France entière, l'affaire Jubilard. Comment travaillent les journalistes qui enquêtent sur place? Pourquoi cette affaire intéresse davantage que les autres? Nous serons avec Sébastien Devaux, c'est le chef de l'info du Nouveau Détective, et Laurent Labigne, journaliste pour la radio toulousaine 100% radio. Batigne, pardon, il est le seul à avoir eu une interview avec la mère de Cédric Jubilard. Et tout cela a commencé par une histoire de voyante. Puis nos invités, le comédien Samuel Le Bihan pour la 7e saison de la série Alex Hugo sur France 2, la série qui écrase tout sur son passage, même en rediffusion, et même depuis qu'elle est passée de France 2 à France 3, car elle avait démarré sur la 2. Enfin, l'humoriste Nora Hamzaoui pour son nouveau spectacle. Il s'appelle Nouveau Spectacle. Il est déjà nommé au Molière, pas seulement pour le titre, évidemment. En tournée dans toute la France, au Casino de Paris, les 25 et 26 janvier. Pourquoi j'en parle? Parce que le 26 janvier, ce sera également en direct sur la chaîne TMC. Il y aura également son portrait d'avant la célébrité, le portrait pré-fame, signé Lisa Marie Marquez. Quel programme! Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Héloïse Goy.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Au sommaire de votre journal des médias.
Le directeur des rédactions du Parisien réagit à la polémique Blanquer suite à une révélation de Mediapart. L'émission de Faustine Bollaert en conflit avec l'humoriste Rémi Gaillard. Et puis un documentaire qui donne la parole aux Noirs français. C'est ce soir sur France 2.
Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir, le top 3.
En tête, TF1, toujours un bon score pour la série Sam, 4 080 000 téléspectateurs, soit 18,6% de part d'audience. Sur M6, en deuxième place, Patron Incognito, en grande forme, 2 640 000 téléspectateurs, c'est 13% du public devant sa télé. Et puis un moins bon score pour France 2 avec la série Manipulation qui se classe en troisième place. La série perd 500 000 de téléspectateurs par rapport à la semaine dernière. Hier soir, ils étaient 2 500 000 devant leur écran. C'est 12% de part d'audience.
Europe 1, Culture Média.
Et on ouvre ce journal des médias avec le quotidien Le Parisien aujourd'hui en France, au cœur d'une polémique suite à une révélation de Mediapart.
Oui, une révélation qui fait suite à une interview de Jean-Michel Blanquer au début du mois dans le journal Le Parisien. Les journalistes Thomas Poupeau et Pierre Maurer avaient recueilli les propos du ministre de l'Éducation sur le protocole sanitaire dans les écoles. Propos illustrés par une photo de Jean-Michel Blanquer dans son bureau au ministère. Mais hier, Mediapart a révélé que cet entretien n'avait en fait pas eu lieu à Paris, mais depuis Ibiza, où le ministre était en vacances. J'ai demandé à Jean-Michel Salvatore, le directeur des rédactions du Parisien, pourquoi le journal n'avait pas évoqué les conditions de l'entretien.
On a discuté de cette interview avec le cabinet de Jean-Michel Blanquer le 30 et le 31 décembre 2021. Donc on était à quelques heures du réveillon. Et c'est vrai que le cabinet nous a demandé si on pouvait faire l'interview à distance. Moi, j'ai donné évidemment mon accord. On ne savait pas où il était. Ce n'est pas du tout les usages de faire des enquêtes de police sur l'endroit où se trouvent les interlocuteurs qu'on interroge. Enfin, on n'est pas dans un système policier où il faudrait absolument exiger de nos interlocuteurs qu'ils nous disent exactement où ils sont, avec qui ils sont et dans quelle tenue ils sont.
La photo qui illustrait l'article du 2 janvier dernier a en fait été prise le 12 novembre dernier dans le cadre d'une précédente interview avec Jean-Michel Blanquer. J'ai demandé à Jean-Michel Salvatore pourquoi la rédaction n'avait pas précisé que cette photo était datée.
Ça n'est pas l'usage, donc on ne le fait pas. Je n'ai pas le sentiment d'avoir trompé le lecteur en publiant cette photo, qui était une photo qui avait 2 mois. Non, je pense qu'on ne les a pas trompés. Honnêtement, qu'est-ce que ça change qu'il ait fait cette interview d'Ibiza, de son bureau ou d'ailleurs? Je pense que le sujet n'est pas là. Je pense que là, on est dans une campagne électorale, donc évidemment, tout le monde fait de la politique. Certains représentants de l'opposition survouent un petit peu l'indignation, ça fait partie du jeu d'une campagne, mais nous, on n'a pas à être mêlés à ça.
De son côté, le cabinet du ministre a assuré que, je cite, « ce n'est pas parce qu'il n'était pas là qu'il n'était pas au travail ». Fin de citation.
Réaction de Jean-Michel Salvatore en exclusivité pour Culture Média. On continue avec une autre polémique, cette fois autour de l'émission de Faustine Bollaert.
Oui, une polémique qui concerne Rémi Gaillard, France 2 refuserait de citer le nom de l'humoriste à l'antenne. L'affaire a commencé avec un tweet d'un homme invité dans l'émission « Ça commence aujourd'hui », diffusé la semaine dernière. Cet homme s'appelle Pierrot. Sur le plateau, il racontait qu'il avait réussi à sortir de la rue grâce à une vidéo où il dénonçait la situation des SDF lors du premier confinement. Mais après la diffusion de cette émission, Pierrot a publié un tweet dans lequel il remercie Rémi Gaillard qui l'a aidé à sortir de la rue. Il précise aussi et surtout que France 2 lui a expressément demandé de ne pas citer le nom de l'humoriste sous peine de le couper au montage. Un tweet qui n'a visiblement pas plu à l'équipe de l'émission puisque la rédactrice en chef a recontacté Pierrot pour lui demander de supprimer la publication. Une conversation enregistrée à l'insu de cette rédactrice en chef et qui a été diffusée sur les réseaux sociaux. De son côté, les équipes de l'émission ont par la suite répondu à Rémi Gaillard sur Twitter en le remerciant pour son aide apportée à Pierrot, tout en précisant qu'il préférait laisser plus de place au témoignage à l'antenne qu'au remerciement.
La disparition d'une star française du doublage.
Il s'appelait Michel Ruhl, son nom ne vous dit peut-être rien, mais sa voix vous rappellera sûrement des souvenirs.
Je ratissais une allée non loin du professeur Tournesol lorsque j'ai entendu crier Madame Castafiore. J'ai levé les yeux vers les fenêtres, j'ai alors lâché mon râteau et j'ai couru vers le château.
Vous avez une idée du personnage que vous venez d'entendre, Philippe ?
La Castafiore, on est dans Tintin.
Oui.
C'est pas Tintin, c'est pas Haddock. Donc c'est
Nestor, le majordome du capitaine Haddock, qui était dans la série animée Les Aventures de Tintin. Un personnage incarné donc par la voix de Michel Ruhl. Le comédien était aussi célèbre pour avoir prêté sa voix à la version française de James Cromwell. Une voix grave qu'on a aussi pu entendre dans des séries comme Stargate ou Game of Thrones, où il doublait le personnage de Peisel. Et en plus du doublage, Michel Ruhl a aussi joué dans une vingtaine de films, dont Le Jouet avec Pierre Richard, ou encore Mort d'un pourri avec Alain Delon. Il avait aussi incarné Jacques Chirac dans un téléfilm de Lucas Bellevaux en 2007. Michel Ruhl est décédé à l'âge de 87 ans.
Et on termine ce journal avec un documentaire consacré aux Noirs en France, documentaire diffusé ce soir sur France 2.
Donner la parole aux Français noirs de tous âges et de tous horizons, connus ou inconnus du grand public, voilà l'objectif de ce documentaire intitulé « Noirs en France », un film signé Aurélia Perrault et raconté par l'écrivain Alain Mabankou. Pour raconter ces histoires toutes différentes les unes des autres, le documentaire est construit autour de 6 personnages principaux, dont Miley, une petite fille de 9 ans.
Dans ma classe, on n'est que 2 élèves noirs. On m'a déjà dit « tu es noire, donc je ne joue pas avec toi » ou « que tu n'es pas belle et que je ne joue pas avec toi ». Ça me rend un peu triste. À toutes ces personnes, j'ai envie de leur répondre. C'est comme si, vous, il y avait peu de blancs et que nous, on était plus de noirs et qu'on vous disait « bah, vous êtes moche parce que vous êtes blanc ». Voilà.
En plus des images d'archives qui retracent l'histoire des discriminations en France envers les personnes noires, les journalistes ont cherché à connaître le poids des préjugés raciaux sur l'inconscient des tout-petits. Et pour ça, ils ont posé des questions à des enfants sous la forme d'un test qui existait déjà aux États-Unis dans les années 40. Le directeur du Musée national de l'immigration explique le fonctionnement de ce test.
On donnait à choisir à des enfants noirs aux États-Unis entre une poupée blanche et une poupée noire et on s'apercevait que l'enfant prenait la poupée qu'il préférait plutôt que la poupée qui lui ressemblait le plus au fond. Et c'était presque toujours la poupée blanche.
Voilà, je vous laisse découvrir les résultats de ce test de la poupée qui a été refait par les journalistes aujourd'hui. Je peux juste vous dire que c'est très étonnant. Ce documentaire, il s'inscrit dans une soirée spéciale sur France 2. Il sera suivi d'un débat animé par Julien Bugier avec notamment Alain Mabankou ou la comédienne Firmine Richard. Ça commence ce soir à 21h10 sur France 2.
Merci beaucoup Eloïse Goy. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. C'est gratuit, c'est sur europe1.fr.
À demain.
Un nouveau journal des médias. Dans un instant, notre info média du jour, le fait divers qui passionne la France, l'affaire Jubilard. Alors que les fouilles ont repris hier pour tenter de retrouver le corps de Delphine, on va s'intéresser à l'écho médiatique de l'affaire. Comment les journalistes enquêtent-ils sur place? Auprès de qui? Et pourquoi cette histoire fascine autant les médias? Les réponses dans quelques instants.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
L'affaire Delphine Jubilard, fait divers qui passionne la France et les médias. L'histoire de cette mère de famille disparue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn. Depuis ce jour, on n'a jamais retrouvé Delphine. Le principal suspect, son mari Cédric, a été incarcéré et les rebondissements ont été nombreux. Tout ça sous les caméras de télévision et les micros des radios. Depuis hier, les fouilles ont repris à Cagnac. Des centaines de gendarmes et de militaires ont été déployés pour retrouver le corps de Delphine. Et depuis hier, les journalistes sont évidemment sur place pour suivre l'opération. Comment enquête-t-il ? Pourquoi le mystère jubilard fascine autant les médias ? On va répondre à ces questions avec nos invités. Bonjour Sébastien Deveau.
Bonjour Philippe Dandel.
Vous êtes le chef de l'information du magazine Le Nouveau Détective. Laurent Batine avec nous, bonjour.
Oui, bonjour Philippe Dandel.
Vous êtes journaliste pour la radio locale toulousaine 100% Radio et vous suivez l'affaire sur le terrain. Vous travaillez pour cette radio locale à Toulouse qui couvre l'Occitanie. Toulouse, à combien d'heures de route ? À quelle distance de Cagnac-les-Mines ?
Ah, c'est à une heure de route, mais moi je suis basé dans le Tarn à 15 minutes de Cagnac-les-Mines. La radio 100% est une radio qui est native du Tarn. Elle est née il y a 20 ans dans le Tarn.
Vous êtes sur place, j'imagine, ce matin. Et ma question suit. Comment s'est déroulée la journée d'hier ? Qu'avez-vous vu si tant est qu'on ait réussi à vous laisser voir quelque chose ? Je veux dire, les autorités qui bouclent le secteur, ai-je vu à la télévision ?
C'est tout à fait ça. Et en même temps, on ne pouvait pas voir grand-chose parce que le brouillard était très, très épais, comme d'ailleurs aujourd'hui. Donc, on a enquêté et on a eu des informations. Mais voilà, on n'a pas vu grand-chose sans pouvoir approcher de la ferme, justement, parce qu'il y avait les gendarmes. Donc, voilà, on sait ce qui se passe à peu près.
Il est possible d'utiliser des drones ou pas du tout ? Ou vous êtes repéré tout de suite par un gendarme ?
Alors, j'en ai pas à ma disposition et le survol est normalement interdit par arrêté municipal, notamment.
Alors, la question évidemment que tout le monde se pose quand on est sur place, c'est comment ça se passe pour couvrir cette opération ? Est-ce que vous avez un référent de gendarmerie ? Enfin, mille questions. D'abord, comment ça se passe ? Concrètement, pour avoir les infos ?
Ah ben, déjà, alors pour avoir les infos, c'est tout un travail de réseau, de réseautage, hein, avec un avantage qu'on a, nous, en tant que localiers, c'est qu'on connaît le territoire et on connaît aussi les gens. Mmh. Et cette proximité, en fait, nous avantage sur le fait que il y a une confiance avec les gens du territoire, que ce soit au niveau de la gendarmerie, des élus ou même ce que j'appelle moi mes sentinelles, c'est des gens qui sont dans le secteur, qui me connaissent et qui m'appellent quand ils voient des choses étranges et ils essaient de me renseigner et moi je les renseigne sur ce qu'ils ont vu.
Et je ne vais pas vous soutirer tous vos secrets de fabrication, de toute façon vous n'allez pas les donner, mais vos sentinelles, non, non. Elles sont 5, 10, 15, 20.
Je ne peux pas le dire.
D'accord. Donc,
je peux pas le dire parce que ça permettrait d'aiguiller peut-être même mes confrères sur ma façon de travailler et pour avoir de l'avance en tant que média local et avoir des scoops comme on en a régulièrement ou des exclusivités. J'ai des contacts dans tous les milieux sociaux professionnels. On va dire ça comme ça.
Sébastien Deveau, je me tourne vers vous du Nouveau Détective. Cette fouille reprend. Suite aux incroyables révélations de la semaine dernière qui ont été publiées par le journal Le Parisien, le quotidien relayait des confidences qu'aurait faites Cédric Jubilard, le principal suspect à l'un de ses co-détenus. Qu'aurait-il avoué ?
En fait, il aurait tout simplement avoué la scène de crime. Le détenu a écouté les confidences de Cédric. Cédric qui lui explique avoir tué sa femme après avoir surpris cette dernière en train de consulter son téléphone portable et envoyer des messages à son amant. Et à la suite de ça, il aurait pris un couteau et il l'aurait tué. Il aurait même ajouté, selon ce co-détenu, ils n'ont même pas trouvé ce couteau, ces abrutis, en parlant des enquêteurs.
Et le corps qui se trouverait dans la ferme que les autorités sont en train de fouiller, il l'a dit également à ce co-détenu.
Effectivement, il l'a également dit à ce co-détenu en précisant que le corps se trouverait dans cette ferme, à côté d'un arbre. Et cette ferme se situe à environ 2 km du domicile des Jubilard. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il se confie à ce co-détenu. Parce qu'il est intéressé, il veut que ce co-détenu aille sur place et bouge le corps de place afin que les gens ne le retrouvent pas à cause des intempéries ou des animaux qui auraient mangé le corps.
Sébastien Deveau, vous n'êtes pas au Parisien, mais vous avez une immense expérience en la matière, au Nouveau Détective, des affaires judiciaires. Techniquement, comment une conversation entre deux détenus se retrouve dans la presse ? Qui a parlé ?
Ça, c'est toujours le mystère de l'information. On ne peut pas le savoir, ou généralement, le journaliste ne veut pas dire
en général,
quelles sont ses sources.
Il y a trois solutions, c'est soit un détenu, soit un maton, un surveillant, soit un avocat.
Tout à fait, c'est l'un des trois. Mais généralement, c'est quelqu'un qui a plutôt intérêt à ce que la fuite s'opère. Il ne faut pas se voiler la face.
Laurent Batine, qui a intérêt à ce que cette fuite s'opère, selon vous ?
Ou ça, c'est une grande question. Ben, soit, oui, les...
On a perdu Laurent Batigne. On va Vous êtes là, Laurent ?
On pourrait avoir intérêt à ce qu'on trouve... Ah, vous m'entendez ?
Attendez, on a un petit problème. On a un petit problème. Je voulais savoir, je vais vous demander à vous, Sébastien Devaux, et ensuite je vais demander à Laurent Batigne la même question. Depuis quand enquêtez-vous sur cette affaire ? Et vous-même, comment travaillez-vous, puisque vous n'êtes pas sur place ?
Alors, depuis le départ, en fait, depuis la disparition de Delphine Jubillar, en fait, tous les jours, je suis la presse quotidienne régionale, notamment le confrère de 100% Radio, La Dépêche, bien évidemment, et j'envoie ensuite un reporter sur le terrain. On a on a quelques reporters de terrain qui sont aguerris aux faits divers et qui vont enquêter d'abord sur la disparition de Delphine.
Donc vous avez le nouveau détective a un reporter en ce moment sur place.
Bien évidemment.
Que vous a-t-il dit la dernière fois que vous lui avez parlé, c'est-à-dire hier soir ou j'imagine ce matin ou hier soir ?
Alors j'ai pas encore fait de point avec lui, mais je dois en faire un ce matin. On est un hebdo, on n'a pas donc les exigences des quotidiens. Donc je ferai un point avec lui ce matin.
Votre bouclage, c'est quand ?
Nous sommes en bouclage le samedi pour un journal qui sort le mercredi.
Est-ce qu'on a retrouvé Laurent Batigne ou pas ? On a retrouvé Laurent Batigne. Je vous demandais, la première fois où vous allez enquêter sur cette affaire, vous étiez en première ligne, racontez-nous.
Alors c'était le jeudi même de la disparition, puisque une amie Delphine nous a appelé à la radio pour nous dire notre amie Delphine a disparu, on veut lancer des recherches, aidez-nous. En tant que radio de proximité, 100% est souvent contacté pour ce type de disparition, puisque malheureusement il y a beaucoup de gens qui disparaissent ou qui fuguent. Mmh. Là j'ai contacté les gendarmes qui m'ont dit d'attendre le lendemain parce qu'ils avaient des vérifications à mener. Et à partir donc de ce jeudi... L'affaire a été lancée au départ pour une disparition inquiétante et puis après donc pour plus que ça, puisqu'il y a une enquête au criminel qui a été ouverte une semaine après.
Plus que
et
ça.
Et depuis, on cherche.
Plus que ça, Laurent Batigne, puisque vous obtenez un sacré scoop. On va l'entendre, on marque une courte pause. On parle de l'affaire Jubillar. Laurent Batigne, Sébastien Devaux, Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
On parle de l'affaire Jubillar. Nous sommes avec Sébastien Devaux, du Nouveau Détective, chef des infos. Laurent Batigne, journaliste à 100% Radio, une radio basée dans le Tarn. C'est lui qui a été en première ligne sur cette affaire avant même que la disparition de Delphine soit officielle. Et Laurent Batigne, à la suite de cette disparition, vous allez avoir un sacré scoop. C'était en septembre dernier. La mère de Cédric Jubillar, Nadine, appelle le standard de la radio, mais pas du tout pour parler d'une disparition, mais pour parler à une émission, à participer pardon, à une émission de voyance. Que va-t-elle dire à l'animateur ?
Alors en fait, elle s'est inscrite et c'est l'animateur qui l'a sélectionnée au hasard, Nadine F, pour donc une session de voyance sur 100% Radio. C'est tous les jours, donc il y a des inscrits de partout. Et donc Nadine F va se confier à la voyante en demandant à celle-ci de retrouver sa belle-fille pour lui offrir une sépulture décente. Des confidences qui vont durer un certain moment, jusqu'au moment où moi, l'animateur, va m'appeler en disant « Écoute, on a une certaine Nadine, il faudrait vérifier que ce soit vraiment la mère de Cédric Jubillar ». Et donc, on a fait le choix de ne pas diffuser ses confidences et de lui proposer une interview dans le cadre journalistique et donc qu'elle nous explique ce qu'elle venait de dire à la voyance. Et elle a un peu varié, beaucoup varié dans ses affirmations, briefées par son avocate, au moment donc, de l'interview que nous avons diffusée à l'antenne de 100% Radio.
Oui, mais dans ses confidences, elle disait explicitement que son fils était coupable.
Elle disait qu'elle avait des certitudes que son fils était impliqué dans la disparition de Delphine Jubillar. Ce qu'elle ne nous dit pas après, moi, en interview, briefée donc, par son avocate, où là, elle instigue une part de doute beaucoup plus importante. On peut le comprendre, elle était très accusatrice envers son fils. Mmh. C'est quand même son fils, donc officiellement, à un micro, dans un média, devant un journaliste, elle a un petit peu... atténuer ses propos.
Alors, vous allez finalement aller à la rencontre de Nadine F, donc la mère de Cédric Jubillar. Vous l'avez dit, elle revient un peu sur ses propos. On l'écoute, elle est à votre micro.
Je laisse le soin à la justice de faire son métier. Quand j'ai parlé avec votre collègue, c'était dans le fait d'une relation, une discussion, alors pas intime, mais privée. Aujourd'hui, disons que je me suis un petit peu calmée, et que je fais dans la retenue sur mes propos.
Et elle aurait contacté cette voyance comme une bouteille à la mer.
C'était surtout dans le but de me raccrocher à quelque chose. Au jour d'aujourd'hui, je suis toujours dans l'ignorance et je cherche par tous les moyens possibles et inimaginables.
L'émission de voyance à laquelle elle participait n'était pas en direct. Vous nous avez dit, vous avez décidé de ne pas diffuser les propos de la mère dans laquelle elle mettait en cause son fils sur la disparition de Delphine Jubilard. C'est Delphine, je ne trouvais plus le prénom. Vous nous avez pas dit pour quelle raison. Pourquoi ne pas diffuser un témoignage aussi important?
Parce qu'elle ne le souhaitait pas. Et elle voulait pas. Bah,
elle ne le souhaitait pas, mais elle ne souhaite pas. Si on appelle une radio pour parler, c'est qu'on souhaite que ce soit diffusé.
C'était dans le cadre d'une discussion avec la voyante avant l'émission, en fait. Et nous, tout est enregistré.
Ah, c'était avant l'émission.
Pour raison de sécurité.
Je n'avais pas compris ça. Ça y est, je viens de comprendre. Pardonnez-moi, 30 secondes. C'était avant l'émission, avant d'être en direct, elle parle à la personne qui est chargée de gérer les appels. Et c'est là qu'elle lui fait la confidence.
Oui, ça va durer, l'échange va durer un long moment, hein, parce qu'il y a un échange tripartite entre l'animateur Wilfried et la voyante Christine. Et donc, il y a cette discussion qui se noue, parce que l'animateur essaie de savoir si c'est vraiment la mère de Cédric Jubilard, et la voyante, essaie de lui donner des informations sur ce qu'elle voit déjà et comment va se dérouler la voyance après. Et c'est là que je pense que elle rétropédale, en fait. Elle se dit non, en fait, finalement, qu'est-ce que je suis en train de faire, etc.
Et j'ai compris tout ça. J'ai compris tout ça. Je n'ai toujours pas compris pourquoi vous avez refusé de diffuser. J'ai l'impression que quasiment 99% des médias auraient diffusé un témoignage aussi puissant.
Parce qu'elle ne le souhaitait pas. Elle dit non, mais je ne veux pas être enregistrée finalement, je ne veux pas être enregistrée. Et donc, par choix, on a préféré lui donner la parole de manière honnête. C'est-à-dire que, journalistiquement parlant, si vous interviewez quelqu'un à l'insu de son plein gré ou parce que finalement, il y a entre ce qu'elle dit et ce qu'elle pense, il y a eu une évolution. Voilà, on ne voulait pas. Donc, on a recontextualisé avant l'interview et après, on voulait qu'elle nous le dise, on va dire, vraiment ouvertement devant un journaliste et pas à une voyante ou un animateur, vraiment dans un cadre journalistique.
Et je me tourne vers vous, Sébastien Deveau. L'affaire Jubilard va faire la une du Nouveau Détective demain avec ce titre « Les incroyables ratés de l'enquête ». Parmi elles, les bourdes du procureur, c'est le fameux « Quadgate ». J'explique ce qui se passe, on est le 18 juin, Cédric Jubilard est incarcéré et suspecté du meurtre de sa femme et le procureur de la République de Toulouse, Dominique Alzéari, donne alors une conférence de presse et il parle d'un élément qui prouverait la culpabilité de Cédric Jubilard, extrait.
Lorsque les gendarmes arrivent vers 4h50, ils trouvent M. Jubilard occupé à déclencher une machine à laver dans laquelle se trouve la couette. Du lit sur lequel dormait Madame Jubilard. Et là, ce soir-là, expliquant que ce seraient peut-être les chiens qui auraient sali cet édredon, donc il était en train de le laver. Ce qui, à 4h50 du matin, n'est pas forcément la première chose à laquelle on pense lorsque votre femme a disparu.
Cédric Jubilard, dans la maison, le rangement de la maison est assez négligé, fait tourner une machine à laver en pleine nuit alors que sa femme disparaît. Évidemment, tout le monde pense qu'il est coupable. Sébastien Deveau, qu'en est-il? Est-ce qu'il y a eu couette ou non dans cette machine à laver? Vous dites les bourdes du procureur, vous incluez celle-ci.
Alors, ce qu'il faut préciser avant, c'est bien que cette couette, c'est un élément fondamental. Vraiment, dans l'accusation, c'est un élément extrêmement important. Parce qu'évidemment, lorsque sa femme disparaît, on ne met pas la couette de sa femme dans une machine à laver. C'est un élément forcément qui est inquiétant. En fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé.
Ah bon?
Et, pas du tout. Et ça a été d'ailleurs une information qui a été relayée à l'initiative des avocats de la défense. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque les trois gendarmes primo-intervenants rentrent au domicile de Cédric et Delphine Jubilard, effectivement, il y a bien une machine en train de tourner, avec notamment des paires de chaussettes dépareillées. Mais la fameuse couette n'est pas à l'intérieur. Il y a d'ailleurs des photographies qui en attestent de la présence de cette couette qui n'est pas à l'intérieur de la machine à laver, mais à l'extérieur, dans la maison.
Pardonnez-moi, voilà. Mais alors pourquoi le procureur dit ça?
Mais en fait, cette couette a bel et bien été lavée, mais 35 heures après. Donc ce qui n'est pas du tout la même chose. c'est plus un élément aussi décisif.
Deuxième question, comment se fait-il que vous connaissiez, je m'adresse à vous deux, même aussi également à vous, Laurent Bakin, comment se fait-il que vous connaissiez une information que le procureur ignorait?
Moi, dans l'analyse que j'ai de cette conférence de presse à laquelle j'ai assisté, j'ai pas du tout compris ces affirmations, surtout qu'il est là normalement pour faire taire des rumeurs ou donner la bonne information. Je pense qu'il a été briefé par les gendarmes, mais il n'a pas compris les éléments de ce briefing et a fait peut-être des approximations en fonction de ce qu'il avait comme élément. Mais il a dit beaucoup de choses erronées ou anachroniques par rapport au déroulé d'enquête.
D'accord. Dernière question à tous les deux. Est-ce que vous avez une source, une hypothèse, plutôt une hypothèse ou une certitude sur l'identité du coupable ?
Du coupable dans l'affaire Delphine Jubilard ?
Ouais.
Vous savez, c'est pas à moi, un journaliste, de dire qui est coupable, qui est innocent.
Laurent Bakin, vous en avez une ?
Non, mais le mari est souvent dans ce genre d'affaires le principal suspect et le principal auteur, mais rien n'est sûr encore. Hein. Moi, je ne pense
J'ai compris.
Pas que
vous...
Jubilard peut, voilà, est le seul peut-être impliqué.
Et nous non plus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Laurent Bakin, on vous écoute sur 100% radio dans le Tarn, mais également sur toute la région de Toulouse et ailleurs, Occitanie. Sébastien Deveau, le nouveau détective en kiosque demain avec ce titre, Affaire Jubilard, les incroyables ratés de l'enquête. J'ai dans l'idée qu'on risque de vous réinviter parce que c'est pas terminé cette affaire. Merci d'avoir été avec nous en direct. Dans un instant, on va parler de la série policière. Mais là, c'est une fiction qui cartonne depuis 7 saisons. Alex Hugo, qui est passé de France 2 à France 3 et qui marche toujours aussi bien. Nous sommes avec son acteur principal, c'est Samuel Le Bihan. A tout de suite.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour Samuel Le Bihan.
Bonjour.
Vous êtes comédien, le Pacte des Loups, 3-0, Jet Set, Disco, ancien pensionnaire de la Comédie Française. Vous êtes le découvreur et le producteur de François-Xavier de Maison, qu'on aime beaucoup ici. Vous cartonnez actuellement avec la série Alex Hugo sur France 2. Ça démarre mardi prochain à 21h, ce sera le 25 janvier. Série qui bat tout ce qui est mis en face d'elle par les autres chaînes, même en rediffusion. Là, je parle des audiences. Donc, cette 7e saison démarre mardi. Pour qui n'aurait jamais vu Alex Hugo, comment vous définiriez la série ?
C'est assez mystérieux. Vous savez qu'au départ, ce n'était pas une série, c'était un unitaire. Et comme cet unitaire a bien marché, on en a fait un deuxième, puis un troisième. Et là, ça fait 7 ans. Donc, on en fait 3 par an. C'est assez luxueux. On n'est pas dans le caractère de la série. On est vraiment dans la collection, avec des réalisateurs différents, des scénaristes différents. Voilà, il n'y a que moi qui reste un petit peu stable au milieu de tout ça.
Alors, puisque vous parlez de vous, qui est Alex Hugo, votre personnage ?
Alex Hugo, je dirais que c'est un personnage qui est en quête de liberté, de justice, de paix intérieure. C'est quelqu'un de profondément blessé qui cherche ou fuit quelque chose.
Mais il a un métier quand même.
Et il a un métier, les flics.
C'est la base.
Les flics, c'est un ancien de la BAC de Marseille et qui est retiré à la montagne pour être au calme, mais il n'y a rien de moins calme que la montagne.
Ah oui ? On va parler des décors qui sont absolument somptueux.
Ouais.
L'épisode de mardi prochain, donc le 25 janvier sur France 3, s'appelle « Seul au monde », le point de départ. Je commence et je vous laisse finir.
Ouais.
Alex se balade en montagne, il tombe sur la carcasse d'une voiture qui a fait une sortie de route. À ses côtés, à côté de la voiture, il y a Myriam, la fille d'un médecin de Marseille qu'il connaissait bien. Il connaissait bien le médecin, il connaissait bien la fille.
Oui, il connaissait bien Myriam. On comprend qu'il y a une histoire d'amour entre eux. Quoi. Et il est vraiment très sensible à cet accident. Il va comprendre que ce n'est pas tout à fait naturel, en tirant le fil. Et ça va permettre de parler de thèmes assez sociaux, surtout du thème du transgenre, qui va être abordé dans l'épisode. Et ensuite, on va sortir un personnage beaucoup plus fragile que d'habitude, plus paumé, plus perdu, justement peut-être parce que la mort, la disparition de cette Myriam, ça remue énormément de choses pour lui.
Racontez pas tout, on va entendre la bande-annonce.
Quand Alex Hugo s'éloigne de ses montagnes...
Mais on n'est pas là pour rigoler. Là.
Ça n'est pas pour la randonnée.
On enquête sur un meurtre.
Mais à Marseille, comme en altitude...
Tu veux en comprendre quoi maintenant,
hein ? Mieux vaut savoir où on met les pieds.
Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux buter un flic ?
Il va pas bien, mais vraiment, pas bien du tout.
Inédit. Alex Hugo sort de sa zone de confort, 21h10, sur France 3.
il est quasiment jamais dans sa zone de confort avec Hugo. Il travaille pour la police rurale, c'est écrit dans son dos, comme police municipale. Ça existe vraiment ou c'est une entité imaginaire, la police rurale ?
Je les ai rencontrés. Et en fait, c'est une entité qui vient des gardes champêtres. Ouais. Donc, avec Hugo, c'est un garde champêtre.
D'accord. Mais c'est plus chic dit comme ça. Oui, on va entendre un extrait. Ça se passe évidemment au début de l'épisode. Vous êtes avec votre collègue et ami Angelo, incarné par Lionel Astier. Et vous tombez donc sur la carcasse de cette voiture qui a fait une sortie de route. Myriam, votre amie qui était médecin, couchée dans l'herbe sur le dos. Et très vite, vous êtes convaincu, Alex Hugo est convaincu, qu'il ne s'agit pas d'un simple accident.
C'est ici que la voiture a plongé. Elle devait venir de chez elle parce qu'elle emprunte toujours ce raccourci quand elle va dans la vallée. Qu'est-ce qu'elle pouvait aller faire à cette heure-ci ?
Ah ben, elle a peut-être été appelée par un patient.
Sa sacoche de médecin n'est pas dans la voiture. Hier soir, le ciel était dégagé. Le temps était sec. Il n'y a rien qui explique cette sortie de route.
Ou alors un animal. Elle a voulu l'éviter, elle a donné un coup de volant, elle a perdu le contrôle.
Ouais, bah dans ce cas-là, elle aurait freiné par réflexe. Il n'y a pas de trace de frein. Pas de coup de volant, rien. Il n'y a rien qui explique cet accident. Sauf si c'est pas un accident.
Non, t'emballe pas. Attends, il y a plein d'hypothèses possibles. Elle a eu un malaise, elle s'est endormie.
Faut demander une autopsie. Une analyse toxicologique complète. Faut tout passer au crible, y compris la voiture. Ça colle pas, Angelo.
Vous savez ce qui frappe dans cette série quand on n'a pas l'image et qu'on n'a que le son ? Je ne m'étais pas fait la réflexion en voyant. C'est le silence. Ce qu'on ne dit pas, c'est que les paysages d'Alex Hugo sont absolument somptueux.
Oui, c'est vrai. Et la nature est extrêmement présente. Et effectivement, le silence le raconte, quoi. C'est un personnage, hein, la montagne. C'est vraiment un personnage. On évolue dans ces décors, mais avec ce sentiment d'aventure, de liberté, bien sûr. Mais le rapport aux éléments est extrêmement fort. Et c'est pour ça que Alex Hugo est aussi très instinctif. C'est quelque chose d'assez particulier, vous savez, quand moi j'ai découvert du coup la montagne à l'occasion de cette série, la montagne l'été, hein, pas l'hiver quand on va faire du ski, mais l'été, et on va faire des randos, on fait de l'escalade, on commence à avoir, on est obligé d'avoir de l'activité, hein, sinon c'est pas possible. Et pour l'apprécier, et on voit ces montagnes, elles vous défient, on a envie de les monter, on a envie de les parcourir et de les gravir, et la sueur, l'effort, la fatigue, la soif participent à créer un lien affectif avec cet objet qui est minéral, qui est la montagne. Et c'est assez particulier, cet échange. Et je comprends que ça crée une espèce d'osmose où le personnage devient instinctif, il sent les choses, il les comprend sans tout à fait les
verbaliser.
Oui, c'est pas cérébral, voilà.
Mais également, Alex Hugo, il est ancré dans le réel, dans la société. Vous parliez de transgenre tout à l'heure. On en reparle, on marque une courte pause. Avec vous, Samuel Le Bihan, Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Avec Samuel Le Bihan, comédien, il incarne entre autres Alex Hugo. Je dis entre autres, c'est la 7e saison. Quand une série, on est à la 7e saison, c'est que ça marche très très bien. Juste pour donner une idée, c'était sur la 2, c'est passé sur la 3. Ça marche toujours aussi bien. Et je vais en parler. Et ça bat parfois en rediffusion TF1 et M6 qui sont en face. On l'a dit, c'est ancré dans le réel. Vous disiez, il y a un personnage transgenre dans l'épisode qui passe mardi. La comédienne, c'est Andrea Furet. Elle est connue pour avoir interprété le rôle principal de l'unitaire Il et Elle. C'était en fin d'année sur TF1. Dans l'épisode, il y a une association où elle se retrouve qui s'appelle L'Abri. Ça s'inspire du refuge, association qui vient en aide et qui propose des hébergements aux jeunes personnes LGBT dans l'urgence. Tous les épisodes d'Alex Hugo sont ancrés comme ça dans le réel et dans les questions sociétales.
C'est la force de la productrice Delphine Vautier à mixer les genres. C'est-à-dire qu'il y a des épisodes qui sont plus sociaux, donc qui sont plus sur l'enquête, sur le polar, le thriller, et parfois aussi beaucoup plus sur l'aventure. On magnifie un peu plus les grands espaces, nos individus, nos personnages, nos héros perdus dans l'immensité du décor. Et on varie les plaisirs là-dessus, on se renouvelle en permanence. Donc ça, c'est intéressant.
Puisque vous parlez d'aventure, on vous voit souvent faire des ascensions, Samuel Le Bihan. C'est vous qui grimpez ou c'est un cascadeur ?
c'est moi, j'adore ça. Ouais. Alors ça, j'ai découvert l'escalade, c'est un sport vraiment magnifique, quoi. Vraiment, quand je parlais d'effort et la minéralité des choses, et là vous êtes en train de vous accrocher à cette paroi pour la gravir, il y a quelque chose d'affectif qui se fait en lien avec la montagne, avec ce moment Avec ce sentiment de liberté, c'est assez incroyable, c'est des émotions très très fortes.
Et vous faites peur parfois ?
Oui, bien sûr, ouais, en faisant de l'escalade, je me suis fait peur, ouais. Surtout au début. Maintenant ça va, je maîtrise un peu mieux. Il faut tomber pour évacuer cette peur. Et...
Mais vous faites peur, je ne parle pas de votre vie, est-ce que vous faites peur parfois devant la caméra ? On pense évidemment à Belmondo suspendu par un filin en hélicoptère. Est-ce que parfois vous faites peur sur le tournage ?
Ouais.
Ou est-ce que le réalisateur vous dit « calme-toi Samuel, va doucement ».
Alors on minimise les risques,
évidemment.
Hein, tout est bordé, il y a un câble de soutien et tout, mais l'autre jour je suis sur un pont suspendu, il lâche, je me retrouve dans le vide et je dois me raccrocher d'un bras à une corde qui reste suspendue, et c'est cet élément qui me sauve, quoi. Sinon je suis happé par le torrent. Et les cascadeurs me disent « ouais, ce serait quand même bien que tu touches pas l'eau ». Parce que sinon, on ne pourra pas te remonter. T'as beau être accroché, c'est pas sûr quand même.
Et donc, pardon de rire, mais vous seriez resté suspendu dans le vide comme ça pendant 3 heures.
J'ai été happé par le torrent. Il me dit, dans ces cas-là, vaut mieux couper le câble et qu'on se retrouve en bas. On n'arrivera pas à te remonter. Donc, il y a quand même une part de risque, quoi. Alors que moi, qui m'amuse, parce que je contrôlais assez bien le mouvement et je savais que j'avais pas peur, je savais que j'avais assez confiance en moi pour me rattraper. Mais il valait mieux le réussir, oui, quand même.
Vous l'avez dit, c'est parti d'un unitaire, je vais raconter la genèse, c'est parti d'un bouquin d'un poète américain, Richard Hugo, « La mort et la belle vie », c'est chez Albin Michel.
Tout à fait.
Deux auteurs français, stars des polars, se greffent sur le projet. Nico Takian, Enfant qu'il y ait, ils sont toujours là. Et c'est pas rien, ces deux gars.
Eh ben non, c'est pas rien. C'est les rois du polar français. J'adore, moi, leurs livres. Hein. Je les dévore parce que c'est vraiment la science du suspense, du thriller, l'ambiance, le décor. Et on a la chance, et ça, c'est ce que je parlais de la productrice, mais c'est vraiment le travail qu'elle fait, quoi. Elle a su les ramener dans cette aventure. Et puis, alors, il y a d'autres auteurs, mais j'affectionne Pierre Isoard aussi, avec Julien Guérif, qui écrit des épisodes formidables et qui réalise également. Non, il y a une équipe artistique vraiment très forte, quoi.
Alors, je dois le dire, Alex Hugo est la 7e série la plus vue en 2021, toutes chaînes confondues. Il y a déjà eu 20 inédits diffusés sur France Télévisions, 18 sur la 2 et sur la 3, donc depuis la rentrée. La collection bat son record d'audience déjà à 6,4 millions de téléspectateurs, 26,3% de part de marché pour les deux inédits qui avaient été diffusés en septembre. Qu'est-ce que ça a changé, si tant est que ça a changé quelque chose, de passer de France 2 à France 3 ?
Eh bien, moi j'avais très peur, qu'on perde notre public, voilà, que cette histoire s'achève sur des mauvais choix. Et puis ensuite, on s'est retrouvés donc, en face de Koh-Lanta, donc on n'était plus le mercredi mais le mardi soir. Heureusement, on est resté en semaine quand même, parce qu'on avait quand même un rendez-vous avec une journée, un jour dans soir dans la semaine. Et on était en face de Koh-Lanta, j'ai eu très très peur, et le public nous a suivis, il y a une espèce de fidélité, il y a quelque chose. Ça veut dire qu'on ne le trahit pas, qu'on arrive toujours à se renouveler, à le surprendre, à lui plaire, et à l'emmener avec nous dans nos histoires.
Et vous avez battu Koh-Lanta quand on connaît les moyens de la production, ce qui est quand même assez prodigieux.
Ouais. J'étais désespéré pour tout vous dire. Et puis, non, c'est ce métier, on est...
Et juste un mot de la production, vous avez dit on a un peu moins de moyens sur France 3 et ça a un peu impacté les épisodes.
C'est pas moi qui ai dû dire ça, c'est la productrice.
Vous l'avez dit à Télé Loisirs le 21 septembre.
Oui, on a un petit peu traduit.
Vous voulez qu'on dise qu'on fasse comme si vous l'aviez jamais dit.
Non mais écoutez, on est sur des budgets télé, faut pas rêver. Hein.
Bien sûr.
C'est pas comme le cinéma, donc on est obligé de créer des moments forts. Avec moins de moyens. Donc c'est dans l'écriture qu'on se débrouille. C'est les acteurs, c'est l'artistique qui prend le relais. Et on se débrouille quand même pas trop mal, quoi.
Où en est l'adaptation de votre livre qui était sorti en 2018, Un bonheur que je ne souhaite à personne, dans lequel vous racontez votre vie avec votre fille
J'ai écrit le scénario avec Charlotte Ponce et on en est à la 3e version. Notre producteur nous challenge, donc voilà, je pense que ça continue d'évoluer, peut-être aujourd'hui le cinéma est dans une situation particulière, hein, avec ce qui s'est passé avec le Covid, il y a une partie du public qui ne revient pas dans les salles, il y a trop de films qui arrivent, donc
ça pourrait intéresser une plateforme,
bien sûr, oui absolument, à voir comment ça peut évoluer, mais aujourd'hui en tout cas c'est vraiment sortir un scénario parfait, parce que face à justement à cette profusion de films qui arrivent là, il faut se démarquer et offrir un produit vraiment très travaillé, quoi. Et ensuite on verra comment on le fait.
Exactement, en espérant que le film sorte. Et puis un mot de l'association que vous avez montée, la plateforme Autisme Info Service. en hommage et en écho à votre fille. Merci beaucoup Samuel Le Bihan d'avoir été avec nous. Je rappelle, c'est la 7e saison de la série Alex Hugo sur France 2. Mardi prochain à 21h, il y a un épisode et puis un autre le mardi suivant. Merci d'avoir été avec nous en direct. Culture Média continue beaucoup. Évidemment après les infos de 10h, les télescopages de Bruno Donnet. Hier, il a regardé la JLC Family sur TFX et il en a perdu ses voyelles et son latin. Notre invité, l'humoriste Nora Hamzaoui, on parle de son nouveau spectacle qui s'appelle...
Nouveau spectacle.
Fallait le faire. Dans Les Indispensables, Caroline Speller nous présente un manga qui avait disparu et qui revient dans les librairies. Et puis Marc-Antoine Lebray en fin d'émission. À tout de suite sur Europe 1.